Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans le salon Albert Mola. Je souhaite également la bienvenue aux auditeurs qui nous suivent via le site mola.com. Nous réalisons ce soir une soirée exceptionnelle, comme souvent chez Mola, à l'occasion des journées de la revue Commentaires célébrées à la librairie Mola. Nous recevons Jean-Marie Colombani, journaliste et essayiste qui réalise, entre autres, une excellente émission sur France Culture tous les samedis de 12h45 à 13h30, Rumeurs du Monde. Éric Le Boucher, directeur de la rédaction du magazine économique Enjeux et des Échos, et Jean-Claude Casanova, directeur de la revue Commentaires, membre de l'Institut et président de la Fondation nationale des sciences politiques. Tous les trois vont débattre devant vous d'un sujet qui me semble d'importance, la France face à l'Europe au lendemain de l'élection présidentielle. Permettez-moi encore de vous rappeler que la revue Commentaires, et je vous cite Jean-Claude Casanova, a pour but d'inciter les politiques à réfléchir et inciter les intellectuels à penser la politique tout en mesurant les difficultés pratiques. Commentaire paraît 4 fois par an. Elle est disponible durant l'année à la librairie Mola et durant ces 2 jours, vous pouvez la trouver à la librairie ou y souscrire un abonnement annuel avec une remise spéciale de 20%. Voilà, j'en aurai terminé et je laisse la place au débat et je passe la parole peut-être à Jean-Claude Casanova pour débuter.
Merci, cher Serge. Merci, mesdames et messieurs, de bien vouloir être venus nous écouter. En principe, nous devions demain continuer à parler à Bordeaux pour notre émission que nous aurions fait tous les trois avec Daniel Vernet, mais malheureusement, les studios n'ont pas été disponibles et donc nous avons préenregistré l'émission qu'on entendra demain et qui traitait du sujet que nous allons aborder, mais de façon un peu différente. Et je vous propose que nous nous organisions de cette façon. Je commencerai par poser le problème fédéralisme ou pas. Je vous dirai pourquoi je choisis cette introduction. Et ensuite, Jean-Marie Colombani reprendra la question en le regardant sous l'angle de la politique française. Et Éric Le Boucher sous l'angle de la crise actuelle qui est décisive d'une certaine façon et qui explique ce titre. Alors pourquoi ce titre, fédéralisme ou pas? Il est tout simplement inspiré par un excellent journal qui est un hebdomadaire britannique qui, la semaine dernière, The Economist, la semaine dernière, sur sa page de couverture, a publié un poteau routier avec à gauche fédéralisme et à droite catastrophe ou destruction, qui veut dire très clairement que désormais l'Europe est à une croisée de chemin, ou bien elle va progresser avec un degré supplémentaire d'intégration, ou bien elle va se détruire dans ce qui était son dernier et principal instrument, c'est-à-dire la monnaie européenne. Alors, le titre de l'économiste m'a incité à me poser la question suivante. Quand a-t-on commencé à parler à propos de l'Europe de fédération? Je savais que Aristide Briand avait abordé la question, mais j'ai retrouvé le texte de son discours. C'est le 23 février 1926. À la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, il déclare « L'Europe sera, comme l'Amérique, un État fédéral ». Et de cette position qu'il prend en 1926, vont découler un certain nombre de décisions qu'il va prendre comme ministre des affaires étrangères, puis comme président du Conseil, et qui vont aboutir à la grande déclaration que la France fait devant la SDN, le 5 septembre 1929, dans lequel la France propose explicitement un projet fédéral d'organisation des 27 pays européens membres de la SDN. Et dans ce texte, qui a été rédigé par Alexis Léger, c'est un jaune perse en littérature, dans ce texte, il est dit que, bien sûr, l'Europe doit tendre à constituer une fédération comme les États-Unis, sans, dit-il, par précaution sans doute, sans remettre en cause la souveraineté des différents États. Et si on a la curiosité ensuite de regarder quelles ont été les réponses des différents pays européens à la proposition Briand, qui arrive en 29, hein, qui préfigure une période qui va mal se dérouler par la suite, mais c'est la dernière grande tentative de rapprochement franco-allemand avant ce qui va suivre, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir du nazisme et la rupture de toute relation. Mais dans les notes, on a les documents des réponses des différents pays. Elles sont presque toutes favorables, sauf la réponse britannique, qui dit que, malgré que le mémorandum français précise bien explicitement qu'on ne renonce pas à la souveraineté, on peut faire des négociations en matière commerciale ou économique, mais qu'il n'est pas question d'aborder le problème politique. Alors faisons un saut historique, le mot « fédération » va être réutilisé à nouveau dans la déclaration, dans ce qu'on appelle la déclaration Schuman, qui elle a été rédigée par Jean Monnet et des collaborateurs de Jean Monnet, qui est une déclaration du 9 mai 1950, préparatoire à la CECA, texte qui a une histoire tout à fait particulière parce que c'est le seul grand texte diplomatique français qui ait été rédigé sans être soumis aux fonctionnaires du ministère des Finances ni aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Il a été rédigé par l'inspecteur des Finances qui était auprès de Robert Schuman, par Jean Monnet et un certain nombre d'autres personnes, mais en se tenant parfaitement à l'écart des services administratifs et provoquant d'ailleurs la fureur de l'ambassadeur de France à Londres, qui était Massigli, qui n'appréciait pas du tout cette tentative qui pouvait heurter les Britanniques. Et dans le texte de Robert Schuman, il est dit explicitement que c'est un projet, que la proposition d'unification de l'acier et du charbon est un projet qui, à terme, aboutira à la constitution d'une fédération. Le terme est explicitement utilisé dans la déclaration Schuman et a été ensuite invoqué de différentes façons. Alors, continuons à faire des sauts. 1957, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'Europe, je vais aller très vite à mon point. 1957, c'est Guy Mollet, le traité de Rome. Très généreusement, Guy Mollet demande à Maurice Faure d'être le signataire, alors que normalement ça aurait dû être le ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, par générosité à l'égard de Maurice Faure, qui avait énormément travaillé à la rédaction du traité de Rome. Ensuite, l'État vient quand Delors est à la Commission européenne et, s'appuyant sur le traité de Rome, propose toute la réglementation sur le marché unique avec l'accord des Britanniques qui ont le sentiment que le marché unique c'est strictement économique et commercial et que ça n'a pas d'implication politique. Madame Thatcher réagira un peu à ça, mais en gros, les Britanniques marchent dans cette époque. Ensuite, nous avons un espèce d'âge d'or. Si on regroupe cette période, l'âge d'or, c'est au fond 74-91. Et vous pouvez accoler des noms aussi différents que Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand. Du côté allemand, le chancelier Schmitt, puis le chancelier Kohl. Donc les principaux partis politiques français, le centre droit, le centre gauche, c'est l'élection du Parlement européen au suffrage universel, le Conseil européen, la création de l'euro, qui est la grande décision de François Mitterrand, en accord avec les Allemands, le traité de Maastricht en 92. Et ensuite, un certain nombre d'autres éléments, si vous voulez, à la première fêlure, qui est l'échec du traité de Maastricht en France. Échec qui est d'une certaine façon, mais Jean-Marie l'expliquera mieux que moi,
le
traité sur la Constitution, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, excusez-moi, le traité sur la Constitution. Oui, Maastricht était justement le référendum Maastricht de Mitterrand est passé assez parfaitement, enfin juste, mais passé. Le traité sur la Constitution échoue, il y a en France une opposition à l'unification européenne à droite et à gauche. Bon. Alors, mon propos, c'est le cœur de ce que je voudrais dire, c'est pourquoi a-t-on quitté l'âge d'or? Pourquoi est-on entré dans une période de difficultés? Pourquoi, depuis pratiquement la création de l'euro et le rectificatif à l'échec constitutionnel qui est le traité de Lisbonne, qu'a très bien négocié Nicolas Sarkozy. D'une certaine façon, c'est un des éléments très positifs de son bilan, qu'il a peu évoqué pendant la campagne, mais qui est une réussite politique, puisqu'on était parti d'un échec référendaire et qu'on aboutit à un traité qui est un peu moins bon qu'en était le projet constitutionnel, mais qui permet d'avancer. Alors pourquoi est-on dans une espèce de nasse dont on mesure bien les difficultés? Et je vais vous proposer ce qui me paraît le cœur de la situation actuelle qui rend les choses difficiles. Alors, je dirais que la première difficulté vient évidemment de l'élargissement et du nombre. Ce qui avait été facile avec un nombre réduit de pays est beaucoup plus difficile avec un nombre considérable de pays. Et ce n'est pas seulement le nombre, c'est l'augmentation du degré d'hétérogénéité. Malgré tout, dans les 6 fondateurs, le degré d'homogénéité des législations, des mœurs politiques, etc., était beaucoup plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui entre 27. Donc il y a incontestablement un ralentissement qui est lié au nombre, d'autant que l'on a délibérément, particulièrement les Allemands, mais nous aussi, tout le monde, on a voulu l'élargissement sans trop se préoccuper au moment où on élargissait de l'approfondissement. Donc là-dessus, il faut l'admettre, ça fait partie de la difficulté. La deuxième difficulté tient aux institutions elles-mêmes, c'est-à-dire que dans la construction institutionnelle de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, là aussi le degré d'hétérogénéité politique s'est accru. Le système ancien, qui avait été pensé par un juriste français, ami de Jean Monnet, qui était Reuter, consistait à donner un rôle considérable à la Commission. À la Commission s'est ajouté organisme indépendant qui avait au fond un monopole de proposition et un monopole de surveillance de l'exécution des traités. À la Commission s'est ajouté le Conseil, qui est une création de Valéry Giscard d'Estaing, qui est la représentation des différents États-nations et qui, d'une certaine façon, s'est trouvé dans une forme de semi-concurrence avec la Commission. Dans l'esprit politique, Giscard d'Estaing est incontestablement pro-européen, favorable à l'unification européenne et au fédéralisme. Mais dans son esprit, le Conseil était la façon de résoudre la tension qui était apparue clairement au moment du gaullisme, c'est-à-dire que les États-nations persistent et que la dépossession de souveraineté ne peut pas être totale. Elle peut être partielle, en tout cas elle doit être négociée. Et donc le Conseil est l'élément qui permet d'européaniser les États-nations. Et donc, mais à partir du moment où il y a le Conseil et la Commission, il y a deux institutions dans une forme de semi-concurrence, auquel s'est ajouté le Parlement avec la légitimité supplémentaire que lui donnait l'élection au suffrage universel. Et donc nous sommes dans des institutions qui sont plus satisfaisantes dans leurs aspirations synthétiques, puisqu'on veut satisfaire l'élection, la légitimité démocratique par le Parlement, on veut satisfaire la légitimité nationale par le Conseil, et on conserve la Commission. Donc on satisfait des penchants partiellement contradictoires, mais on augmente le degré de complexité et le degré de difficulté. La troisième raison qui me paraît jouer un rôle est liée au choix des hommes. C'est-à-dire que si on regarde historiquement qui est nommé par les gouvernements pour tenir des hautes fonctions européennes, on constate qu'il y a je ne voudrais pas dire les choses de façon blessante à l'égard des personnes, mais il faut quand même les dire comme on les pense, on refuse les fortes personnalités et on prend des personnalités excellentes mais moins fortes. Par exemple, incontestablement, si on avait choisi Patten, bien que les Anglais et les Britanniques ne soient pas très pro-européens, la forte personnalité de Patten, grand personnage du Parti conservateur anglais, dernier gouverneur anglais à Hong Kong, personnalité de très très... Je suis sûr que sa présence, la nature de sa personnalité aurait joué un rôle, comme a joué un rôle les personnalités de Jean Monnet, de René Maillère, de Jacques Delors, de Raymond Barr et de quantité d'autres lorsqu'ils ont eu des responsabilités européennes. It does matter, comme disent les Anglais, si vous voulez, quand quelqu'un a plus d'envergure internationale, une capacité de décision plus rapide, un œil plus lucide pour voir venir les événements, les choses changent. Et les gouvernements ont eu cette attitude. Les Anglais avaient beaucoup souffert de Delors. Les Français ne voulaient pas une trop forte personnalité. Enfin, le jeu, la concurrence avec le Conseil et l'ego des hommes politiques, la lutte pour monter à la popularité et la lutte pour être médiatisé a fait qu'il y a eu un abaissement volontaire de la nature des personnalités qui ont été choisies pour tenir les rangs de l'Europe, si vous voulez. Et puis, quatrième difficulté, je dirais la pensée anglaise qui est de nature différente. Il ne faut pas croire qu'on peut se simplifier la vie et le raisonnement en disant, voilà, les Anglais sont toujours hostiles à toute formule d'unification continentale. Et ils sont contre l'Europe comme ils étaient, contre Louis XIV, contre Napoléon, contre Hitler et contre l'Europe. Bon, c'est une simplification historique. Il y a comme toujours une petite part de vérité, mais c'est une simplification historique. Et de même, l'autre simplification est institutionnelle en disant, ils ne peuvent pas comprendre une formule fédérale ou confédérale, ils sont profondément insulaires, etc. Je ne pense pas que ce soit la raison profonde. Je pense que la raison profonde est, si j'étais anglais, si j'ose dire, un anglais d'aujourd'hui, par exemple, quand je bavarde avec mon homologue de la London School, le président du conseil de la London School, et que je lui dis quelle est votre perspective universitaire, il me dit ma perspective universitaire, c'est très simple, je suis la meilleure université disponible en Europe, pour le monde asiatique. Parce que les Indiens et les Pakistanais connaissent la Grande-Bretagne, ils connaissent Londres et ils parlent anglais. Et donc, moi, mon problème, c'est de former les futures élites asiatiques. Donc, ils pensent la London School comme une institution mondiale. Et si je bavarde avec un banquier anglais ou quelqu'un de la cité, etc., ils pensent Londres comme étant le centre financier d'un monde dont désormais l'épargne est en grande partie asiatique. Et dans le changement, dans la mondialisation actuelle, les Anglais retrouvent le sens mondial que leur donnait le 19e siècle. Et c'est légitime, si vous voulez. Le problème, il faudrait concilier cette inspiration légitime des Anglais avec l'inspiration légitime des Européens continentaux et leur dire vous serez les meilleurs guides de l'Europe dans le monde parce que, après tout, c'est vous qui avez la plus grande expérience politique mondiale. C'est incontestablement à Londres, on peut parler de n'importe quel grand sujet de politique mondiale et pas à Paris. À Paris, on ne trouve pas les experts. On ne peut pas discuter de... Je me souviens toujours d'un ami diplomate qui s'occupait de la Yougoslavie qui disait à Londres, on peut réunir 50 personnes pour discuter du problème entre les Serbes et les Croates. À Paris, on ne trouve personne pour discuter de ces questions parce que personne n'est vraiment où on trouve deux ou trois personnes. Et donc, si vous voulez, il y a un renouveau de l'expérience mondiale des Anglais qui ne facilite pas la pensée anglaise en cette matière. On le voit très bien en matière de réglementation bancaire, on le voit dans leur comportement, etc. Ils sont à la fois dans l'Europe, favorables à l'Europe parce que les chocs en Europe les gêneraient, mais ils ont une aspiration mondiale qui coïncide avec le fait qu'ils sont les cousins des Américains. L'expression a été utilisée pour la première fois par Gladstone. C'est pas nouveau, si vous voulez, cette expression de dire nos cousins. Le premier qui a dit nos cousins américains, c'est Gladstone vers 1875. Ils ont eu le sentiment que les cousins allaient devenir très importants, mais ça reste des cousins. Et bon, alors il y a ça, il y a la langue anglaise qui est la langue mondiale, et puis il y a cette aspiration des Anglais à jouer un rôle mondial. C'est le quatrième point. Mon cinquième point, et je vais arriver là-dessus, ce qui fournira une transition avec ce qu'on va dire nos amis, c'est l'Europe prend compte les difficultés de la démocratie. Alors, les difficultés de la démocratie, qu'est-ce que c'est ? La démocratie, ce sont des élections et la capacité des parlements de voter plus de dépenses que de recettes. D'une certaine façon, on peut définir la démocratie de cette façon. Parce que ce n'est pas un hasard si la crise principale de l'Europe est la crise des dettes souveraines. La crise des dettes souveraines, c'est la crise des obligations qu'émettent les États. Si les États omettent des obligations, c'est parce qu'ils s'endettent. Et s'ils s'endettent, c'est parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne disent de l'argent qu'ils n'en disposent. Et donc, il est dans la pente démocratique, si vous voulez, de contrôler ça. Et c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des élections. Alors, il y a une admirable formule. C'est sans doute ce qu'il a fait de mieux de l'actuel président de l'Eurogroupe, M. Juncker, qui a dit... Je sais très bien ce qu'il faut faire pour sauver l'euro, mais ce que je ne sais pas, c'est comment gagner des élections si je fais ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, si vous voulez, si vous pensez qu'il y a 27 gouvernements avec une légitimité démocratique et des élections, que les élections se gagnent devant les électeurs, et qu'il est très difficile de gagner des élections devant des électeurs, avec un projet européen dans lequel, d'une certaine façon, certains éléments nationaux seront subordonnés à des éléments supranationaux. Il est vraisemblable que si la Confédération suisse devait se constituer aujourd'hui, je passe sous le contrôle de mon ami receveur, il n'est pas sûr que les cantons, si vous voulez, délégueraient autant de pouvoir qu'ils en ont délégué à la Confédération. Et si les États-Unis d'Amérique devaient se constituer aujourd'hui entre l'État indépendant de Californie, l'État indépendant du Texas et l'État indépendant de New York, il n'est pas sûr que la Fédération se constituerait. Le paradoxe européen, si vous voulez, c'est de constituer une fédération à partir d'États démocratiques qui existent dans une situation difficile. Donc il faut, sur ce point, entendre ce que va dire Jean-Marie sur la politique française et les élections françaises et ce que vous dira Éric Le Boucher sur la crise de l'euro. Voilà ma introduction. Très bien.
Eh bien, la transition est toute trouvée parce que dans le rappel historique que vient de faire Jean-Claude Casanova sur les années 26 et 29, il y a très exactement le rappel de cette réalité politique, c'est que l'Europe est une ambition française et qu'elle l'est depuis le début. Elle l'est pour la plupart de nos dirigeants, l'idée que c'est la seule façon pour le pays, au fond, pour la France, de se perpétuer en tant que puissance existant sur la scène mondiale, et qu'il faut substituer l'horizon européen à l'horizon national si l'on veut perdurer. Formule qu'exprimait bien François Mitterrand lorsqu'il disait « Voilà, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Et donc il faut toujours garder cela à l'esprit pour suivre au fond la trame de la vie politique française dans ce domaine. Ça, c'est le point de départ. Si je regarde maintenant le point où nous en sommes et qui est la campagne qui vient de se dérouler, ce qui était frappant, c'est pour faire écho là encore à ce que vient de dire en conclusion Jean-Claude, citant Jean-Claude Juncker, c'est que très peu ont parlé de l'Europe. Bien sûr, les partis anti-européens en ont parlé pour la dénoncer, c'est-à-dire essentiellement l'extrême droite qui veut sortir de l'euro, qui veut à la limite sortir de l'ensemble des mécanismes européens, et l'extrême gauche, le front de gauche, qui lui tient à peu près le même discours. Les deux candidats principaux se sont abstenus de faire des propositions sur leur vision de l'Europe, sur les contours que devra prendre l'Europe si on veut qu'elle perdure précisément. Et donc cette prudence montre bien qu'il y a eu, au fond, dans l'opinion française et dans la vie politique française, par rapport à ce point de départ, et qui reste une réalité, c'est-à-dire l'Europe comme une ambition française, évidemment des reculs manifestes. Historiquement, l'Europe est une idée démocrate-chrétienne. Elle est ensuite partagée par des cercles de plus en plus larges. La flamme étant maintenue dans ce qui était auparavant l'UDF, et qui peut se perdurer aujourd'hui à travers le MoDem et au sein du Parti socialiste. Mais au sein même du Parti socialiste, on a vu apparaître aussi une coupure qui a été manifeste lors du référendum sur la vraie fausse constitution européenne, parce que c'était un traité, ça n'était pas vraiment une constitution, avec une part des socialistes qui se sont prononcés pour le non et qui ont introduit une coupure dans une famille qui, jusqu'à présent, s'était jointe au fond à l'édification européenne avec la période d'âge d'or qu'a rappelé Jean-Claude, c'est-à-dire l'époque Kohl-Mitterrand-Delors. Et c'est le couple Mitterrand-Delors qui, en France, a évidemment le plus fait avancer l'Europe. Après Valéry Giscard d'Estaing, UDF, Parti Socialiste, on est là dans une filiation où on trouvait en face, à l'inverse, une doctrine gaulliste qui s'est progressivement, les gaullistes se convertissant à l'Europe, s'est progressivement produit des dérivés qu'on appelle souverainistes et qui font aujourd'hui encore le paysage politique tel qu'on peut l'observer. Ce qu'il faut regretter très fortement par rapport aux politiques français, c'est ambivalent. Si je regarde l'opinion elle-même, on peut se dire, bon, l'opinion, elle a adhéré à la construction européenne. Il faut d'ailleurs toujours rappeler que la période d'arrimage progressif à l'Europe a fait faire à la France des progrès considérables et l'a porté à un niveau de richesse, même si on sait par ailleurs que cette richesse peut être mal répartie, même si on sait par ailleurs qu'il y a un chômage de masse, qu'il y a des inégalités, etc. Mais néanmoins, si on regarde avec un petit peu le recul historique, le pays est à un niveau de richesse qu'il n'avait jamais atteint dans son histoire. Et il le doit très largement à son arrimage progressif, à son ancrage dans cet espace européen que la France, évidemment, contribue au premier rang à construire. Et pourtant, il y a eu les étapes que nous venons de vivre ont été au fond des étapes qui ont à chaque fois marqué un recul. Jean-Claude le rappelait, référendum sur Maastricht, c'est 51-49, c'est une petite majorité. Puis vient l'échec du référendum sur le nouveau traité européen. Et donc on peut se dire quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, à mon avis, ne sera pas celle-là, parce que si on regarde bien l'opinion aujourd'hui de nos compatriotes, ils tiennent aux acquis de l'Europe, finalement. L'Europe est devenue notre paysage et il y a des acquis. Parmi ces acquis, il y a l'euro. Alors on peut être mécontent de l'euro, trouver que ça a fait augmenter les prix, que la situation n'est pas satisfaisante, mais néanmoins, on ne voudra pas s'en défaire. Et il y a une récente étude internationale qui porte sur la plupart des pays de l'Union et qui montre très clairement plus de 60% des Français qui souhaitent évidemment préserver cet acquis-là. Donc la marche arrière n'est pas non plus nécessairement obligatoire. Mais qu'est-ce qui a contribué à cette marche arrière ? Beaucoup les politiques eux-mêmes et nos responsables eux-mêmes, parce qu'un des grands travers de la politique française, c'est d'avoir installé cette idée que quand c'est bien, c'est moi, quand c'est pas bien, c'est Bruxelles. Et donc, au fond, alors même que les politiques eux-mêmes, les responsables eux-mêmes, s'abritent volontairement derrière Bruxelles et derrière un certain nombre de décisions que nous prenons avec les autres et que donc nos gouvernements prennent avec les autres, on s'abrite derrière ces décisions pour faire avancer les choses. Et en même temps, quand telle ou telle partie de l'opinion est en désaccord avec cela, on dit « Ah oui, mais c'est Bruxelles ». Donc on a, au fond, éduqué l'opinion dans l'idée que là où ça dysfonctionne, ou là où c'est pénible, ou là où c'est difficile, c'est Bruxelles, ça n'est pas nous. Là où ça marche bien, au contraire, quand ça marche bien, c'est nous. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'au bout du compte, on ait installé cette espèce d'euroscepticisme latent qui se transforme parfois en hostilité dans un certain nombre de secteurs de l'opinion. L'autre grand travers de nos responsables a été de faire cette assimilation entre mondialisation et Europe. On a au fond progressivement substitué à l'Europe et à l'horizon européen le concept assez vague de mondialisation en disant ben, les délocalisations c'est la mondialisation égale l'Europe, donc forcément on ne peut qu'être contre l'Europe. Et c'est à force de simplification abusive de cette nature, de caricature de cette nature, qu'au fond, nos responsables ont fini par affaiblir leur propre socle, parce qu'ils ont besoin, évidemment, de cette politique européenne, comme nous avons besoin aujourd'hui de l'Europe. Alors, tout ce qui nous ramène à l'Europe aujourd'hui, c'est la crise. Et la crise, avec sa logique implacable, montre qu'il y a une urgence de faire d'autres sauts institutionnels en Europe. Les toutes récentes déclarations du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, sont là pour qui datent d'il y a moins de 24 heures, sont là pour le dire. Il dit mais il faut dissiper le brouillard institutionnel qui fait que le reste du monde n'a plus confiance en l'Europe, alors que c'était jusqu'à présent une construction considérée comme admirable et qui reste en elle-même admirable. Elle n'a plus confiance en nous parce que nous sommes une espèce dans un brouillard, dans un vague, dans un flou que nos politiques auraient d'urgence intérêt à dissiper s'ils veulent eux-mêmes contribuer à la solution de la crise. Mais donc, une part de la solution de la crise, c'est l'Europe, et la crise elle-même nous ramène à plus d'Europe. Et ça, nos dirigeants le savent bien, et simplement, ils ne se sont jusqu'à présent pas donné les moyens d'aider l'opinion à faire ce chemin ou à considérer cela, même si je pense que, confusément, les Français le savent. Et donc, on est dans cette espèce de paysages curieux où Nicolas Sarkozy, s'il avait été réélu, savait que ses premières urgences seraient européennes. François Hollande, étant élu, savait que ses premières urgences seraient européennes. Et pour autant, ils en ont très, très peu parlé. François Hollande étant lui-même un exemple intéressant, c'est quelqu'un qui est né dans dans l'idée européenne, au fond, ses premiers engagements, c'est pour les clubs témoins. Les clubs témoins, c'est un petit club, ce sont une fédération de petits clubs qui regroupent des jeunes filles, des jeunes gens qui se reconnaissent dans l'action de Jacques Delors. Donc, par définition, c'est une ambition européenne. Puis, au cours de sa vie politique, quand il est premier secrétaire du Parti socialiste, c'est lui qui donne la main à Jacques Chirac pour le référendum, pour organiser ce fameux référendum sur le traité dit constitutionnel. Et il échoue en même temps que Jacques Chirac, et il échoue par division interne du Parti socialiste. Et depuis, il est sur une ligne qui est une ligne prudente, qui ne correspond pas fondamentalement à ce qu'il pense. Et quand on l'interroge aujourd'hui sur comment il aborde les choses, il dit, mais il faut d'abord, avant de reprendre notre marche en avant, il faudrait d'abord réconcilier les Européens avec l'idée même d'Europe. Pour réconcilier les Européens avec l'idée d'Europe, il faut que l'Europe redevienne synonyme de croissance. Il faut donc que la croissance revienne par l'Europe, d'où toutes ces démarches engagées à Bruxelles et au-delà. Oui, mais il a sans doute raison dans l'analyse, mais en même temps, il n'a peut-être pas raison dans le calendrier, parce que le calendrier est un calendrier d'absolue urgence qui ne laissera pas le temps à nos dirigeants de se donner les moyens de. Il faudrait probablement aller plus vite et décider plus vite. Alors dans un contexte, encore une fois, où. Il y a une part non négligeable de l'opinion qui est devenue ou qui se reconnaît dans des formations qui se proclament ouvertement anti-européennes. Je note quand même que ces formations, extrême gauche ou extrême droite, elles-mêmes ne disent plus non à l'Europe. Elles disent « Ah oui, mais on est pour une autre Europe. On veut bien, il faut sortir de l'euro. Oui, mais on garderait quand même un instrument de monnaie commune. » Parce que pour les échanges, c'est quand même plus commode, et ainsi de suite. Donc on n'est plus dans le refus. Donc malgré tout, tout le paysage est quand même entraîné dans ce que nous sommes aujourd'hui, à moins que ne survienne d'ici quelque temps une catastrophe qui fasse que la marche arrière étant enclenchée, là, pour le coup, les catastrophes s'enchaîneraient les unes aux autres. Les Grecs vont d'ailleurs avoir un choix très intéressant à faire dans quelques jours. Ils vont voter soit pour l'Europe, soit pour le tiers-monde, le tiers-monde n'existant pas. Plus étant en voie de disparition à travers le formidable progrès économique qui est sous nos yeux aujourd'hui, les pays dits émergents qui ont déjà bien émergé. Donc la notion même de tiers-monde n'a plus grand sens, et pourtant les Grecs sont au seuil d'un choix où ils pourraient faire le choix précisément de cette marche arrière qui serait pour eux en tout cas très dommageable et certainement pour nous aussi lourde de conséquences. Un bémol dans ce tableau peut-être un peu pessimiste, c'est que quand quelqu'un brigue une charge importante, il sait qu'il faut qu'il se réclame malgré tout d'une ambition européenne. D'abord parce qu'il sait qu'être élu président de la République, c'est être élu co-prince d'Europe. On est chargé ipso facto au moins d'un leadership partagé en Europe. Alors après, ce leadership, on peut l'exercer d'une façon plus ou moins intelligente, on peut l'exercer d'une façon plus ou moins brutale, on peut l'exercer d'une façon plus ou moins consensuelle, certes, mais c'est un leadership partagé. Partagé avec l'Allemagne et si possible avec d'autres, mais rien ne peut se faire sans la France et sans l'exercice par la France d'une forme de leadership en Europe. Donc les gens qui se préparent à cette charge ou sont candidats à cette charge le savent. Et je voudrais vous rappeler un épisode que personnellement j'ai vécu de très près et qui était le référendum sur Maastricht. Référendum sur Maastricht, le premier réflexe de Jacques Chirac à l'époque, qui était un opposant à François Mitterrand, était de dire « je suis dans l'opposition, non à Maastricht ». Et c'est au tout dernier moment Édouard Balladur qui l'a convaincu de dire oui à Maastricht en lui disant « Jacques ». Avec son accent indéfinissable, enfin si particulier, si vous ne dites pas oui à Maastricht, vous ne serez jamais président de la République. Et donc, la suite de l'histoire est amusante. Hein. Mais Jacques Chirac a donc pris position pour le oui à Maastricht, ce qui a ipso facto entraîné le non à Maastricht du regretté Philippe Séguin et de Charles Pasqua, lesquels, je peux en témoigner, étaient prêts à voter oui à Maastricht, parce qu'il savait que Jacques Chirac allait voter non à Maastricht. Donc le choix décisif de Jacques Chirac, ça a été « si je veux être président de la République, je ne peux que dire oui ». Bon. Et donc, de la même façon, si on regarde, par exemple, l'évolution de l'extrême droite aujourd'hui, que Marine Le Pen veut transformer, et à la première occasion, elle rompra, elle manifestera une forme de rupture avec l'héritage paternel, elle est sur des positions anti-euro, mais encore une fois, déjà nuancées par... on veut plus de l'euro, on va revenir au franc, mais quand même, on va garder une monnaie commune. On verra... Une des buts témoins de sa transformation, progressivement en parti purement tribunicien, en formation qui aspirera à participer à une coalition gouvernementale, le jour où elle se ralliera à l'Europe. Et ce sera un marqueur ferme et définitif de cette évolution. Donc ça montre que voilà, les gens qui veulent gouverner, qui aspirent à gouverner, sont conscients que tel est notre horizon, à charge pour nous de ne pas le perdre et de ne pas se disperser. Mais néanmoins, vous avez ce climat politique qui pèse et qui fait pression sur les dirigeants, au point, encore une fois, que Nicolas Sarkozy disait voilà, on a tant bien que mal franchi les quelques épisodes de cette crise, mais il nous faut impérativement maintenant redéfinir les contours de l'Europe. Mais il ne nous les a jamais livrés tels qu'il les voyait, et il était retenu en quelque sorte par la part de l'opinion qui est réputée aujourd'hui eurosceptique. De même, François Hollande, plus européen par nature et par idéologie que ne l'était Nicolas Sarkozy au départ, et qui n'a pas osé non plus aller au-delà de l'idée « réconcilions d'abord les Européens avec l'Europe, avec l'idée d'Europe pour pouvoir continuer d'avancer ». Donc on est dans cette pression-là qui est dommageable parce que le temps passe, le calendrier court, que Mme Merkel est très lente à convaincre, mais les structures allemandes sont très lourdes aussi, et que la crise, que nos dirigeants sont dans cette espèce de course de vitesse permanente qui devrait les... Voilà. Et je vous rappellerai aussi bien, pour ajouter à la démonstration sur l'absolue nécessité, sur le poids de la crise elle-même, Nicolas Sarkozy, à peine élu en 2007... va à Bruxelles et dit vos histoires de critères de Maastricht, vos 3% de déficit, c'est pas pour moi. J'ai pas été élu pour ça. Donc il les récuse. Et comment termine-t-il son mandat ? Avec la règle d'or, c'est-à-dire avec des disciplines renforcées par rapport à celles qu'il avait récusées en début de mandat. C'est donc bien que la crise, inévitablement, l'a ramené vers l'Europe. Avec... une grande faute française, à mes yeux, au passage, dans le cheminement, une grande faute stratégique. C'est que quand, dans la suite logique de ce qui avait été initié par Giscard Schmitt et le système monétaire européen, Kohl, Mitterrand, Delors lance la perspective de l'euro. Dans l'esprit de ceux qui lancent l'euro, dans l'esprit du chancelier Kohl, comme dans l'esprit de François Mitterrand ou encore plus de Jacques Delors, l'euro est l'élément, la clé de voûte d'une construction qui va devenir politique. Et on voit bien aujourd'hui, on mesure bien à quel point aujourd'hui la politique, l'échelon politique manque à la gestion de l'euro, manque à la gestion de l'eurozone, de l'eurogroupe. Or, que se passe-t-il ? Ils sont remplacés par un autre couple, par un autre trio, qui n'est plus Delors, Kohl, Mitterrand, qui est Chirac, Schröder, Blair. Et la doctrine Chirac, Schröder, Blair est une doctrine souverainiste. C'est-à-dire, ça consiste à rapatrier les compétences qui avaient été concédées aux institutions européennes, avec toute une polémique au début, rappelez-vous, peut-être certains s'en souviennent, de Jacques Chirac lancé contre Jean-Claude Trichet, ce président de la Banque centrale qui était coupable des pires choses parce qu'il défendait l'indépendance de son institution. Donc l'obsession de nos dirigeants, et principalement de Schröder et de Chirac, c'est le mot d'ordre de Schröder qui est totalement tourné vers l'Allemagne, et c'est Chirac qui, lui, était... j'allais dire européen à éclipse, mais dont la ligne de conduite la plus cohérente sur la durée a été cette renationalisation, au fond, des compétences, d'un certain nombre de compétences européennes. Et c'est l'affaiblissement du niveau communautaire, l'affaiblissement de la Commission qui a été voulu et poursuivi, alors pour le coup, par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne sur cette période-là, donc une bonne douzaine d'années, pour redonner tous les pouvoirs au Conseil européen, c'est-à-dire au gouvernement, aux États, aux nations et principalement à trois d'entre elles, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et nous arrivons avec l'euro à ce point de choc où, alors que l'euro même aurait justifié une nouvelle étape politique, nos dirigeants ont très exactement enclenché dans ce domaine la marche arrière. Et donc nous vivons aujourd'hui les conséquences de ce télescopage fâcheux. Qui est dû à la gestion de cette période et qui pèse encore aujourd'hui sur nos politiques, parce qu'il va falloir reprendre un chemin que nous avions quitté, que d'une certaine façon Nicolas Sarkozy a cherché à reprendre, même s'il a eu malgré tout, pour lui de toute façon c'était moins une question de doctrine qu'une question presque physique. À 27, quand il faut donner la parole à tout le monde, c'est insupportable. On ne peut pas. Donc on décide à deux, on impose. Voilà, c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc c'était une façon de. Mais qui a eu sa justification au pire moment de la crise en même temps, parce qu'il fallait bien avancer. Mais il n'a pas repris de chemin institutionnel quelconque. Voilà exactement la photographie de ce mélange entre opinion, doctrine des dirigeants et situation de l'Europe.
Merci beaucoup. Merci aussi beaucoup de l'invitation. Et du débat, parce que c'est vraiment, en effet, un sujet absolument fondamental. Et moi, en vous écoutant, il y a un côté rassurant. Au fond, ça fait tellement longtemps que ce rêve européen est en construction. Il a toujours été en construction difficile, avec des hauts et des bas, avec des retours en arrière, avec des échecs dans des traités. Mais on a toujours avancé. On pourrait même se dire que l'idée de démocratie, dont on parlera tout à l'heure, est une formidable idée pour l'avenir, que même la Chine y viendra, et que donc ce serait l'heure de l'Europe, que l'Europe, d'une certaine façon, est en avant-garde de l'installation dans le monde d'une forme nouvelle de gouvernance, qu'à un cas. Au fond, oui, tout ça est très rassurant. C'est ce que Jean-Marie a appelé la course de vitesse entre les hommes politiques qui veulent construire quelque chose, mais qui n'osent pas trop avancer, qui sont retenus par les peuples ou l'inverse. Et puis, course de vitesse contre la crise qui tourne et qui revient d'un pays à l'autre, d'Espagne, d'un secteur à l'autre. Un jour, c'est les États qui sont en crise, le lendemain, c'est les banques, après, c'est à nouveau les États à cause des banques, tout ça tourne, et tout ça revient, depuis 3 ans. Alors pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus rassuré du tout. Et que cette construction centenaire, presque, et voire plus lointaine, que c'est le rêve européen de reconstruction carolingien, pourquoi aujourd'hui, j'ai une sorte de doute terrifiant que tout ça ne conduise effectivement, inéluctablement, ce que Jean-Claude appelait la catastrophe, c'est-à-dire l'explosion. D'abord, constatons que... Pourquoi, au fond, il y a quelque chose de changé dans cette lente construction ? C'est que le monde a changé. C'est qu'entre-temps, il y a eu la Chine, il y a eu le considérable développement des pays émergents, de renforcer la mondialisation, qui n'était pas là en 58. La mondialisation en 58, c'était les rapports franco-allemands, avec les Anglais un peu plus tard, mais c'était pas les rapports avec Pékin ou avec New Delhi. Donc l'accélération technologique d'une part, la mondialisation d'autre part, ont quand même accélérer l'histoire et que nous, aujourd'hui, cette course, l'Europe est, face à l'histoire, trop lente. Elle se fait donc doubler par la crise. C'est la première... c'est le risque. Et quand on voit... vous avez vu cette semaine ou la semaine dernière les taux d'intérêt atteindre des niveaux très bas dans un certain nombre de pays et très haut dans d'autres. Très haut en Italie, qui est revenu au-dessus de 6%, très haut en Espagne, revenu au niveau des Grecs. Et à l'inverse, tous les capitaux fuient pour atterrir en Allemagne, bien sûr, taux d'intérêt à 2 ans à 0%, 0%. Taux d'intérêt en Angleterre, on en discutait avec Jean-Claude, c'est assez étonnant, ils sont à 1,62%, c'est le plus bas taux qu'a connu le Royaume britannique depuis 1703. Donc, quant aux États-Unis, leur taux est au même niveau, 1,60, et c'est le plus bas niveau depuis 1945. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux, et les capitaux, comme vous l'avez dit, sont en Asie, ils sont au Moyen-Orient, ils sont encore en Amérique, les capitaux n'y croient plus. C'est fini. Ça fait 3 ans que ça dure, hein, les vieux Européens, ça fait 3 ans que vous devez prendre des décisions, vous êtes toujours incapables de les prendre, alors c'est fini. Nous, on n'y croit plus. Et s'ils n'y croient plus, ça veut dire quand même que le coût d'emprunt, nous sommes encore des pays emprunteurs, le coût d'emprunt augmente et que ça renforce considérablement nos problèmes. Pourquoi ça a raté, d'une certaine façon? Le diagnostic est désormais extrêmement clair. Et vous l'avez dit, le diagnostic, c'est qu'on paye l'erreur de Maastricht. À Maastricht, on s'est dit, on va faire une union monétaire sans union politique. Beaucoup d'économistes avaient dit, c'est impossible, ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas faire une union monétaire qui tienne sans des mécanismes très forts de solidarité fédéraux. Et donc, pour décider de fédéralisme, dans un ensemble de pays démocratiques, il faut des règles politiques. Et non seulement on n'a pas fait cette union politique, mais d'une certaine façon, Jean-Marie l'expliquait, je partage totalement ce diagnostic, on l'a défait. C'est-à-dire qu'on a défait l'organisme fédéral de la Commission pour un organisme différent, le Conseil, qui est, non, absolument pas fédéral, mais qui est une union d'États-nations, qui est l'antifédéralisme. Je rappelle quand même que le budget européen fédéral, c'est moins de 1% de la somme des budgets, c'est-à-dire rien. Et encore trop pour beaucoup, puisque à chaque occasion, on veut encore réduire ce 1%. Les Anglais poussent, les Hollandais suivent, etc. Et même les Français. Les Français ne le défendent que parce qu'il y a une part agricole importante. Donc c'est l'unique raison du 1%, du ralliement des Français au 1%. Cette union monétaire sans union politique a raté. C'est-à-dire qu'on s'était dit, la stratégie c'était « bon, c'est pas grave, on la fera un peu plus tard cette union politique, ça viendra morceau par morceau, on va y arriver, on tâtonne toujours, on patauge beaucoup, mais on avance ». Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. On n'a pas avancé d'un point de vue économique, c'était très simple. On fait une union monétaire et les pays, les économies vont converger. Le niveau de vie va monter dans les pays les plus bas, vers les pays, vers la moyenne, etc. Et on va se retrouver avec des économies. Ce sera intéressant pour les Allemands d'investir en Espagne parce que le salaire y est plus bas. Petit à petit, le salaire espagnol va monter, etc. Donc, fondamentalement, la stratégie était la convergence. Or, il s'est passé l'inverse. Les pays ont divergé parce que les taux d'intérêt étaient très faibles dans les pays du Sud. Et donc, ils ont eu l'euro gratis. Et donc, ils se sont endettés encore plus. Et les pays du Nord ont fait au contraire l'inverse. Ils ont fait des efforts de productivité considérables et de compétitivité qui font qu'ils ont aligné des excédents commerciaux. Et donc, au total, les excédents commerciaux, c'est de l'exportation en haut et en sud, exportant beaucoup en sud, c'est-à-dire installant le chômage dans le sud. Donc on a une Europe qui s'est cassée en deux entre le Nord et le Sud, la France étant exactement au milieu, plutôt vers le sud, à mon avis. Donc c'est l'échec absolu de cette idée qu'en pataugeant, on y arrivera. Alors, crise. crise financière américaine qui nous retombe dessus, crise des dettes européennes, catastrophe absolue. On découvre que la Grèce a triché en plus sur tous ces chiffres, etc. Je ne vais pas refaire le film, vous l'avez tous en tête, et que donc il faut absolument faire du fédéralisme face à la crise. Il faut sauver les Grecs, il fallait sauver les banques d'abord, les banques européennes, et puis sauver les Grecs, etc. C'est-à-dire de rétablir des mécanismes de solidarité, tant bien que mal, et en clair, les arracher à ceux qui payent, c'est-à-dire les Allemands, et pour ceux qui dépensent, c'est-à-dire les pays du Sud. Ce fut long, ce fut tardif, ce fut trop peu, ce fut mal fait, et ce fut à chaque fois trop tard, de façon insuffisante. Le diagnostic, encore une fois, vous l'avez tous en tête, c'est celui-là. En échange, les Allemands ont accepté un peu de solidarité, à condition d'établir enfin ce qu'ils demandaient à Maastricht, et qu'ils n'avaient pas obtenu, c'est-à-dire des règles de budgétaire extrêmement strict, et donc un retour de ces pays du Club Med à l'ordre de la rigueur et de l'austérité. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'idée allemande d'imposer rapidement un retour à des comptes budgétaires nuls, enfin à l'équilibre budgétaire dans ces pays du Sud, les a conduits à la récession. Et dans une récession, le cas argentin est assez lumineux là-dessus, dans une récession, on arrive, l'austérité ne marche pas. La plupart du temps, elle provoque un rétrécissement du PIB, donc un rétrécissement des recettes, et donc l'objectif de l'équilibre des comptes s'éloigne, ou en tout cas se diffère dans le temps de façon indéfinie. C'est ce qui se passe en Grèce, c'est ce qui se passe maintenant en Espagne. Du coup, il faut faire un deuxième plan grec, et aujourd'hui, il faut, avec une interrogation absolument majeure découverte cette semaine, découverte ces dernières semaines sur l'Espagne, où l'Espagne est prise dans une spirale infernale avec des banques qui partent en vrille à cause des crédits immobiliers. Et donc, l'État espagnol comprend bien qu'il n'avait pas de dette au départ. Hein, l'Espagne a toujours d'ailleurs une dette inférieure à la dette allemande. Elle est de 70%, la dette espagnole. C'est moins que l'Allemagne, qui est comme nous, 85%, je crois, du PIB. Donc l'Espagne n'avait pas un problème de compte. Elle avait bien tenu ses comptes. Le problème espagnol était que les comptes privés étaient très déficitaires à cause de la bulle immobilière, et que donc la plupart des gens ne sont incapables de rembourser leurs crédits immobiliers, donc s'accumulent sur les banques des dettes pourries. Donc l'État espagnol ne veut pas aider ses banques, demande à des mécanismes biscornus pour que ce soit la Banque Centrale Européenne. On est là, dans ce moment-là, sans qu'on n'entrevoie aucunement une solution. Aujourd'hui, donc, et François Hollande a eu le mérite de mettre le doigt là-dessus, aujourd'hui donc, cette rigueur purement allemande dans des pays en récession du Sud ne marche pas, donc il faut reparler de croissance. Qui reparle de croissance, donc il a mis ça sur la table, ça a été soutenu par les autres pays, Merkel mise un peu en difficulté, elle-même admet que effectivement le problème de la croissance se pose, Bruxelles vient en renfort, le débat s'ouvre sur cette croissance. Et comme Jean-Marie l'a dit, c'est fondamental de voir dans l'esprit français que l'Europe représente notre avenir et donc notre croissance. On peut débattre après du type quelle croissance, d'où vient-elle, etc. Mon diagnostic aujourd'hui, c'est que ce dont nous parlons de croissance, c'est de la croissance à moyen terme. C'est-à-dire, on relance la Banque européenne d'investissement, les fonds structurels qui sont pas vidés, on peut les remettre là, même les eurobonds, d'une certaine façon, c'est encore des bonds, c'est-à-dire encore du financement. Donc c'est un financement de projets qui conduiront à des investissements, qui conduiront à des emplois dans 3 ou 4 ans. Or, c'est aujourd'hui que la crise se pose, c'est d'aujourd'hui qu'on a besoin de relancer la croissance, et c'est aujourd'hui qu'il n'y a aucun mécanisme concret de dépense, enfin de relance possible de cette croissance immédiate. Ou plus exactement, il y en a. Il y a d'abord la baisse de l'euro, qui est un formidable booster d'exportation. Et donc l'euro, vous avez vu, cette semaine, a commencé à fléchir, alors que l'euro n'était absolument pas attaqué. Ce n'est pas une crise de l'euro, mais une crise de la zone euro. L'euro est une monnaie qui avait toute la confiance des grands investisseurs internationaux et qui, je crois, continue de l'avoir. Donc il n'y a pas de doute fondamental sur l'avenir de l'euro jusqu'à présent. Et donc l'euro n'a baissé qu'un peu. Est-ce qu'il peut baisser plus? Est-ce que ça, c'est une solution? Oui, il faudrait que la Banque Centrale Européenne en fasse un objectif. Je ne crois pas qu'elle soit aujourd'hui en mesure de le faire. Et je crois surtout qu'il y a des gens qui sont contre et qui sont puissants, c'est les gens qui ont le dollar et qui ne veulent pas que le dollar monte. Et donc je crois que les États-Unis ont une politique plutôt de dollar faible, sans le dire, sans le reconnaître jamais, et qui bloquera toute désescalade ou toute baisse de l'euro au-delà de, allez, 1,15. C'est énorme, hein. Une baisse de 10% de l'euro conduit quand même peut-être à 0,4% de PIB en plus dans la zone euro. Donc c'est un mécanisme très puissant. Mais je ne pense pas qu'on puisse trop compter là-dessus. L'autre facteur positif, ce serait la compensation de cette divergence dont je parlais au début. Donc un début de convergence, non pas... Enfin, les deux. Il faut à la fois, pour rétablir la convergence, que les pays du Sud retrouvent des gains de compétitivité. Donc, au fond, c'est la politique choisie par les Allemands. Baissez vos salaires, baissez vos coûts. En gros, de 30-40%. C'est ce qui a été fait en Grèce, c'est ce qui est fait en gros en Espagne, c'est ce qui nous menace, voire, quand je dis menace, c'est ce qui nous attend en France, pour une certaine partie, peut-être pas pour 30, mais pour 10%. C'est ce qu'il faudrait que nous rétablissions pour rétablir la compétitivité relative face aux pays du Nord. Et puis, l'autre façon, évidemment, c'est que les pays du bas remontent et les pays du haut s'affaisse, c'est-à-dire qu'on ait une relance des salaires en Allemagne qui conduise à une perte relative de compétitivité de l'Allemagne face aux Italiens, aux Français et aux Espagnols. C'est ce qui se passe là un peu aussi, mais ce sont des mécanismes assez lents. Vous avez tous vu que les salaires en Allemagne augmentent, c'est une chose positive aussi. L'autre façon évoquée, c'est que l'inflation soit plus forte au nord qu'au sud et que les prix monte en Allemagne plus fort. Donc c'est une autre façon de rétablir le différentiel de compétitivité, de l'amoindrir. Donc que l'inflation remonte en Allemagne plus vite. Les Allemands ont l'air de... Certains Allemands ont l'air de l'accepter, de le dire. Ça a été le cas de Wolfgang Schäuble, leur ministre des Finances, de comprendre. Ça, c'est des mécanismes absolument fondamentaux. Baisse de l'euro, augmentation de la compétitivité au sud et... si je puis dire, baisse relative de la compétitivité au nord. Ça, c'est la solution économique fondamentale de la racine du problème. Simplement, il faudrait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et le beaucoup plus loin, beaucoup plus vite impose, je reviens au point de départ de Jean-Claude, impose que nous mettions en commun beaucoup plus de choses et beaucoup plus au-delà de l'euro. C'est que nous avancions dans l'Europe fiscale, dans l'Europe sociale, au sens de minimum, d'Europe minimum, de SMIC minimum, et d'Europe économique. Ce qui accélérerait les choses fondamentalement, c'est non pas une rigueur, non pas de ralentir la rigueur au sud, mais de la ralentir au nord, si je puis dire. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que l'Allemagne atteigne un objectif de 0% de déficit en 2013. Si elle restait à 2% de déficit, ça ferait là aussi des dépenses en Allemagne tout à fait plausibles. Et dont profiterait globalement l'ensemble des autres pays. Ce voudrait dire aussi, vieux rêve français, de modifier les statuts de la Banque Centrale Européenne pour qu'elle rachète carrément des dettes au Sud, pour qu'elle, de façon à rétablir la confiance, autant de mécanismes qui ne marchent pas parce que les Allemands ont un doute profond, sérieux, de confiance vis-à-vis des pays du Sud, et qu'ils disent, si on leur relâche un tout petit peu la bride sur le cou, si je puis dire, ils vont recommencer immédiatement à déconner. Et donc, il ne faut surtout rien lâcher. Tout ce qui est français à cet égard est considéré comme de l'amollissement, c'est-à-dire du radoucissement, c'est-à-dire des dettes supplémentaires. Les eurobonds, c'est des dettes supplémentaires. Les Allemands ne sont pas opposés par principe à l'eurobonds. Même certains de leurs sages économistes l'ont proposé. Ils sont opposés si cela revient à dire que les pays du Sud vont pouvoir, se remettre à réemprunter, c'est-à-dire à cesser de faire des efforts de rigueur. C'est ça qu'ils craignent. Et cette confiance-là, elle n'est absolument pas établie. Donc elle présuppose le fédéralisme, c'est-à-dire qu'il y a une confiance des uns vers les autres. Et je dois dire que les hommes politiques, les gouvernements, ne se font pas confiance, ne se font plus confiance du tout. J'ajoute un point très négatif, plus négatif encore, qui est que ce sont les peuples qui se font plus confiance. Et dans cette crise, nous avons vu monter l'horreur, si je puis dire, c'est-à-dire le ressentiment. Il y a un ressentiment extrêmement fort vis-à-vis de l'Allemagne, en particulier que vous avez en Grèce ou en Italie, voire même en France, où il y a quand même un peu un retour de l'anti-Bosch qui revient derrière beaucoup de phrases et de pensées. Et donc, c'est très difficile quand même d'aller plus loin dans cette union politique, dans cette union fédérale, si on n'a ni confiance et si on n'a ni... espoir, ni amitié avec nos cousins à nous. C'est là, au fond, ce qui explique, je reviens à mon point de départ, le doute et désormais même la non-crédibilité de l'Europe aux yeux des investisseurs étrangers, c'est qu'ils voient très bien que cette union monétaire n'a pas débouché sur l'union politique et il faut la faire maintenant. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Or, la classe politique n'est pas prête du tout, sous prétexte que les peuples ne sont pas prêts, à avancer dans l'union politique. C'est là où je reprends, juste pour conclure, la phrase de Juncker. Effectivement, ils savent ce qu'il faut faire. Ils ne le font pas parce qu'ils risquent de ne plus être élus. Eh bien, tant pis pour vous. Eh bien, tant pis pour vous. À un moment, il faut prendre aussi ses responsabilités. C'est là que probablement deux grands leaders, à mon avis, de l'Europe, qui devraient être le chancelier ou la chancelière et le président de la République française, manquent à leur devoir, c'est-à-dire d'expliquer tout ça. Merkel ne le fait absolument pas. Merkel cède au dernier moment, tirée par les cheveux par Sarkozy. Et vous allez voir qu'elle va céder sur tout à François Hollande, sur tous les mécanismes qu'il veut de la croissance. À la dernière seconde, elle cédera, mais sans jamais expliquer aux Allemands que c'est bon pour eux. En laissant entendre que Bild a raison, le journal, et que c'est tout ça, c'est les Allemands qui y sont de leur poche pour les Grecs. Donc je trouve que là, les deux leaders, la chancelière, n'est pas au niveau d'explication historique de ce qui se passe en Europe. Quant à François Hollande, on va voir. Pas le juger en avance, mais en tout cas, dans la campagne électorale, il n'a pas été en avance là-dessus pour nous expliquer que l'heure est très grave aujourd'hui pour l'Europe, que le monde a accéléré et qu'il faut nous-mêmes accélérer le rythme.
Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. À vous.